avant de faire Li Qing, il faut poser une question. Nous n'avons pas le poser. Mais la question qu'on peut imaginer, c'est comme était Fellini, non?
Il tirait souvent le Yi Qing, Fellini?
Tous les jours. Avant de sortir de la maison ou du bureau, il a fait le Yi Qing.
Federico Fellini, l'illusionniste. Une grande traversée de Matteo Quaranta et Somanina.
Ah, ça porte bonne chance à traverser le grand eau. Votre entreprise, c'est de faire un programme sur Fellini. C'est bien, c'est-à-dire une entreprise, non? Se lancer dans une entreprise. Propitia et perseverance. C'est propice.
La persévérance de porte chance également.
Voilà, ça c'est la sentence de l'oracle sur Chang Fu, sur la vérité intérieure. Votre entreprise, c'est de faire un programme sur Fellini.
Qui s'appelle La Grande Traversée.
Ah, voilà. Ça s'appelle synchronicité. Il était, Fellini, très, très voué aux synchronicités. Il disait toujours, basta cogliere i segni.
Il suffit de cueillir les signes.
Les signes. Donc, ça, c'est un signe. Et il disait, bon, ça, c'est l'oracle nous dit ça. Et on va avec ce augurio.
Avec la renommée de la Dolce Vita, Federico s'est dilué dans Fellini. Sa biographie se suspend, il n'existe que par et pour ses films qu'il tisse comme des rêves. Les années 60 sont pour lui une initiation au mystère. C'est la matière noire de sa boîte magique, la troisième étape de cette grande traversée des territoires de Fellini, l'épisode 3, Fellini des esprits.
J'étais reçu dans une cabane très modeste où vivait Picasso. Il m'accueille, me prépare une omelette avec 12 œufs. Il la cuisine lui-même et puis il m'invite à m'asseoir et me donne une serviette pour pas que je ne me tâche. Il me dit « ne fais jamais tâche ». Et puis nous partageons cette omelette qui était délicieuse. Et de ce rêve, j'ai le souvenir que pendant toute la nuit, il n'a cessé de me parler. Il n'a cessé de me parler comme un très vieil ami. C'est arrivé deux fois, mais la deuxième fois, il ne m'a pas fait d'omelette. Il était de dos, et moi, dans le rêve, j'étais dans la mer. Et je voulais retourner en arrière parce que la mer gonflait, prenait des airs livides, le ciel s'obscurcissait. Il me semblait que la rive, que je m'étais trop éloigné de la rive. Et c'est là que d'un coup, je vois émerger de ces vagues sombres, obscures et menaçantes la tête chauve de Picasso et sa couronne blanche. Il a des épaules robustes et il nage. Et moi, je lui dis, je veux retourner en arrière. Et Picasso secoue la tête et dit, non, non. Et il m'incite à nager.
Oui, c'est ça. Il est dans la bibliothèque.
Daniel Pénac.
Quelquefois, je le sors de son... Regardez sa tête, là. Il se représentait de dos. Et beaucoup plus jeune qu'il n'était, parce qu'il savait qu'il deviendrait chauve. Et finalement, il a continué de se présenter de dos. Mais chauve. Et il a fini par s'accepter, même en rêve.
Là aussi. Quels sont les types de couleurs qu'il utilise si on devait essayer de faire voir un rêve?
Beaucoup de bleu, de vert, de rouge, de noir, de... Ah, ça, celui-ci est une absolument magnifique. Mais plus que les couleurs, c'est le moyen de les épandre. Il y a probablement de l'eau, c'est de l'aquarelle, quelquefois du café qu'il étend avec le pouce. C'était du stylo bille, du crayon, alors beaucoup de gris, de crayonner en diagonale comme ça. c'est pas de la peinture. Parce qu'il faisait ça en se réveillant très vite.
Il avait des grands cahiers de croquis sur lesquels il notait et il dessinait tous ses rêves.
Jean-Max Méjean.
Et c'était son psychanalyste jungien qui le lui avait conseillé. Et donc, c'est vraiment très, par moments, très. C'est très impudique parce qu'il raconte vraiment son intimité. Les dessins sont quelquefois très suggestifs et il n'a été publié que quelques années après sa mort parce que la famille s'y est opposée. Évidemment, on peut comprendre. Et là, maintenant, bon, c'est devenu un très beau livre. Alors, je suis persuadé qu'il pensait que personne ne les lirait jamais. Donc, il y a quelque chose quand même qui est un peu gênant, c'est qu'on pénètre vraiment dans sa rêverie, les secrets de sa vie, dans ses fantasmes. Je prends par exemple ce rêve donc, qui est daté de le 22 décembre 1975, donc, où il dessine une femme alors, qui apparemment est une femme évidemment plantureuse, avec une espèce de soutien-gorge et avec un corps énorme.
Est-ce que vous pensez qu'au fur et à mesure, il s'est rendu compte qu'il était en train de faire une œuvre avec ce livre de rêves?
On ne peut pas savoir avec lui. Boudjard, il y a le mensonge, il y a le jeu. Donc il devait prendre un plaisir fou, en fait. Le jour où Bernhard, le docteur Bernhard, lui a dit « Vous devriez les dessiner, les peindre », il a fait un cadeau magnifique, parce qu'il devait prendre son pied. Est-ce qu'il avait le sentiment de créer une œuvre à part entière? J'en sais rien, je crois pas. Je crois qu'il s'en foutait un peu.
On commence au 30 novembre 1960.
Dans une gare ferroviaire du Nord, Giulietta et moi sommes en partance pour Berlin. Je sais que Giulietta est déjà dans le train et je suis à la recherche de cigarettes. Quelles étranges locomotives que celles avec lesquelles nous partons. Les chaudières allumées, elles fument l'une à côté de l'autre sur des voies parallèles. Elles sont de couleur bleuâtre sombre, riches en décorations et en ornements, avec une pompe qui rappelle celle des chars funèbres des carnavals napolitains. Les voici. Je crois qu'il y a encore du temps avant le départ et je ne suis donc pas pressé. J'entre dans le bar qui est tout près des deux trains et je demande au barman un paquet de cigarettes sans obtenir satisfaction car on est en train de servir d'autres clients qui ont droit à la priorité. Je m'impatiente, j'ai peur que le train puisse partir. Le barman me répond d'un haussement d'épaule et sur un ton désobligeant « Il y a le temps ». Mais à ce moment précis, j'ai la certitude que le train s'en va. Je regarde dehors, angoissé, et je vois en effet que le train file sous l'accotement. Il est parti, il s'éloigne. Je me précipite dehors, mais le train a disparu. Il n'est plus là.
Il y a tout de suite après un rêve qui...
Jordana Charuti.
Ou en tout cas une planche qui est tout à fait intéressante parce que c'est un effort pour traduire la communication très étrange que constitue une séance d'analyse. Alors, il y a l'image du rêve, hein, un arbre, une échelle avec le personnage du rêveur Fellini qui est en haut de l'échelle et qui est en train de rejoindre une jeune femme qui l'invite en haut de cette échelle. Et il y a écrit en lettres majuscules « Monsieur Fellini, est-ce que nous allons vraiment travailler sérieusement ?»« Vogliamo lavorare seriamente ?»«
Monsieur Fellini, pouvons-nous travailler sérieusement ?» Il rêve qu'il raconte son rêve à Bernhard. Il rêve que son psy ne le croit pas. Il y a donc à la fois le mensonge et la narration, parce que à partir du moment où on le raconte de façon structurée, un rêve change évidemment de nature. Et quand il raconte à Bernhard des rêves absolument déconnants, Bernhard le soupçonne d'arranger les choses avec la conscience éveillée, ce qu'il fait. Je suis pas du tout sûr de l'authenticité des rêves. Parce qu'à un moment donné, il se réveille, et puis j'imagine que quand vous voyez ce mouvement de rouge, par exemple, le pinceau ou suit naturellement le mouvement et on va se retrouver dans ce cadre qui ne figure vraisemblablement pas dans le rêve, etc. Donc il est à la fois dans la création, à la fois dans la relation d'un mouvement de l'inconscient, un mot, mais à la fois dans le mensonge, parce que Bernhardt le soupçonne d'enjoliver les choses, ce qu'il faisait probablement. Et puis, il y a un nombre énorme de rêves qui ont un rapport avec ces films, directement.
Avocato l'ho preso.
Mon cher maître, nous le tenons. Hey! Giù!
Viens, descendez!
Giù, définitivement.
Amenez-le plus bas.
Excusez-nous pour cette invasion matinale. Comment allez-vous?
Le rêve a ses silences et ses temps propres. Tout dans le rêve veut dire quelque chose, même l'élément le plus anodin a une signification. Voilà, le bon cinéma devrait tendre à proposer ce même langage, où chaque élément, chaque couleur, chaque volume, chaque ombre, chaque geste, chaque temps a une signification.
J'aime beaucoup ce que vous faites. Ça me fait plaisir de vous connaître. Permettez.
Je peux me servir de votre machine à écrire, monsieur?
Oui. Voulez-vous découvrir votre bras? Comme ça, bien détendu.
Quel âge avez-vous, monsieur?
44 ans. Voilà, levez-vous. Eh bien, qu'est-ce que vous nous préparez de beau? Un autre film sans espoir?
C'est la première fois qu'on en fait la cure, monsieur.
Oui. Respirez à fond. Oui, entrez.
Dans la nacelle d'une montgolfière, en compagnie de Paul VI, qui avait son bonnet papal sur la tête. La situation pouvait aussi être considérée comme dangereuse, car au-dessus de notre nef, on ne voyait aucune montgolfière. Tout allait bien quand même, et je n'avais pas peur. Au-dessous de nous, la plage et la mer de Riccione, pleine de gens qui regardaient en l'air en indiquant quelque chose. Et voici qu'apparaît, plus grande et plus large que le Mont Blanc, une merveilleuse créature en maillot de bain. C'était une femme, une déesse, elle ressemblait. Elle regardait le ciel bleu sans nous voir, puis sa très belle bouche moelleuse émettait un « Oh !» d'émerveillement, et tout le ciel s'emplissait de nuages blancs.
Il lui arrive de rêver et de se figurer si exactement les personnages de ses rêves que lorsqu'il trouve dans la rue ou dans un restaurant un type ou une femme qui ressemble même vaguement à la figure onirique, il l'embauche et ensuite la transforme, la rapproche de la figure onirique par le maquillage. Là, il y a une interaction incroyable entre le cinéma et son travail. Et puis tout d'un coup, le rêve se réalise. C'est-à-dire que non seulement ils entrent dans un film de Fellini, ce dont ils ont toujours rêvé, mais ce film est en lui-même le produit d'une séquence onirique réellement rêvée. Ils pénètrent pour de bon dans le rêve de Fellini. Ce qui fait que leur rêve à eux est d'une certaine façon accompli au carré, quoi.
On est dans les années 1960. La tradition culturelle italienne, qui est liée à un catholicisme coutumier, c'est le fait que une personne dans un groupe social, en général dans la famille, est désignée comme, c'est souvent des femmes, comme rêveuse, et elle rêve pour la famille. Et on traite comme ça des moments d'interrogation, des moments de crise dans la vie familiale. Et le récit de rêve va être mémorisé et va devenir exactement comme un conte. Et il circule au sein de la famille pour traiter d'autres situations sociales. Et en ce sens-là, tout le monde rêve bien sûr, mais il y a des personnes dont on pense qu'elles ont une compétence plus spécifique de rêver pour les autres. Il y a aussi un contexte dans lequel le rêve est très important, c'est la relation avec les morts. On rêve ses morts, et rêver ses morts, c'est soit dans le temps qui succède à la mort d'un parent, d'une personne chère, c'est une manière d'aider le mort à progresser dans l'au-delà, quand on se situe dans une métaphysique de l'immortalité, si vous voulez. Et puis, le mort menaçant ou le mort bienfaisant, qui vient vous donner des conseils, qui vient vous réclamer des choses, etc. Ça, c'est extrêmement présent en Italie. Et lorsque Fellini met en dessin et en écriture ses rêves, il sait très bien les traditions populaires.
Sento una presenza nuova. Sì, qualcuno che non è mai venuto prima. Vuole comunicare con noi. C'è abbastanza carica, maestro.
Dio al tuo spirito e mi riempia la bottiglia, che è vuota.
Ce qu'on rencontre aussi, c'est, alors moi, c'est ce qui m'a intéressé parce que en tant qu'ethnologue, je dirais, c'est de voir comment on retrouve chez un très grand artiste une capacité à s'approprier tout un ensemble de techniques divinatoires, qui, bon, l'interprétation du rêve, bien sûr, à questionner, mais d'autres techniques aussi, et à se faire en quelque sorte s'inscrire dans une sorte de lignée de maître du rêve.
Fellini, il a beaucoup plus approfondi la dimension magique de l'humain.
Marina Géat.
Même toutes ces dimensions sacrées avec un courage qui pourrait être inquiétant.
Je m'intéresse à tout et je crois à tout. Je trouve ça beaucoup plus commode et sain mentalement. Par ailleurs, comment pourrais-je être méfiant, sceptique ou trop prudent avec le métier que je fais? Je fais un métier qui me démontre tous les jours que je suis un mage.
C'est une époque aussi un peu particulière de la société, donc par exemple l'exploration psychédélique, c'est-à-dire par exemple l'utilisation de drogues pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'humain, mais aussi l'exploration de plusieurs aspects du monde mystérieux italien, par exemple à travers son amitié avec Dino Buzzati, un écrivain important de l'époque qui, avec lui, explore l'Italie. Il y a un livre qui a été publié qui s'intitule « Les mystères de l'Italie ». Et c'est là, dans cette occasion, qu'il avait rencontré Gustavo Roll, qui était un médium, un voyant qui faisait des choses soi-disant extraordinaires. Et vraiment, Fellini avait approfondi ce discours. Il y avait eu la 8 et demi, il y avait eu Giulietta degli Spiriti, Juliette des Esprits, donc toute une série d'élargissements de cette dimension un peu du mystère de l'art.
Lo interroghi, maestro.
Spirito, ci vuoi dire il tuo nome? Ha detto i.
R. H.
I.
Ma non ho detto H.
Ma sta zitta, ha detto I. S. Iris. Una donna.
Iris, che bel nome. Chissà chi era. Puoi dirci chi sei?
C'est tout le mystère.
Anselma Dell'Olio.
Il vivait pour ça, pour interroger le mystère, pour chercher de le comprendre. comprendre quelque chose en plus. Il disait, il y a comme voile entre nous et l'au-delà. C'est un voile. Et de temps en temps, si on est très attentif, il y a un déchirement et on peut voir quelque chose. Et pour lui, Rawls, c'était ça. Ce monsieur de Turin, il avait 20 ans plus de Fellini, et un homme d'autre temps, très élégant, très intelligent, très bien né. Non, il fréquentait toute l'aristocratie, il était très aussi instruit, il avait étudié beaucoup, il parlait plusieurs langues, et il avait des possibilités. Et Fellini, c'était fou de lui, parce qu'il lui faisait voir que l'au-delà existe.
Bellissima.
Oh.
Ha detto che bellissima, vero maestro?
Sì, ha detto che bellissima.
Senti, Iris, hai un messaggio per noi?
Ha detto amore per tutti.
Il tuo messaggio è molto grazioso. Senti, Iris, vorresti dirti che... Cos'è, maestro?
Forse un'interferenza. Sei sempre tu, Iris? Ha detto di no. Ora sentiamo.
Come ti chiami?
Olaf. Ha detto che si chiama Olaf.
Olaf.
Je pense que ce qui l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué, et qui a marqué Juliette Amazine, c'est qu'ils ont perdu un enfant en vraiment bas âge. Pierre Federico est mort, il n'avait même pas un mois, et ils n'ont pas pu avoir d'autres enfants. Et cette perte-là lui a fait prendre conscience, effectivement, de la fragilité de la vie. Alors, après, à partir de là, par quel cheminement de pensée est-il arrivé à la pensée magique, je ne sais pas. Il tirait le yiking tous les jours, il avait des tas de mages autour de lui. Il entretenait avec plaisir cette espèce de mystère.
Je comprends. Donc, c'est à la quatrième fois.
Le yiking, c'est un art divinatoire chinois. Alors, ça se pratique avec des pierres ou bien avec des pièces. C'est-à-dire, vous jetez trois pierres ou trois pièces et par l'interprétation de la place de la pièce, si elle est pile ou face, par exemple, je vous la fais simple, ça donne des hexagrammes. Il y en a, je crois, 60 ou 70 hexagrammes qui correspondent à votre état mental. Et c'est très, très, très compliqué. C'est de la poésie, en fait. Donc, il y a toute une interprétation. Ça vous donne des images mentales.
Sixième fois et dernière. Alors, prenons le livre. Le trigramme dessous, c'est le doux et le vent. Et en dessous, il y a Tui qui vous dit le serin et le lac. OK. Le vent sur le lac, c'est ça l'image que Li Qing vous donne. Vous voulez traduire?
Au-dessus du lac, souffle le vent et bouge la superficie de l'eau. Mm-hmm. Ainsi se manifestent les effets visibles de l'invisible. L'hexagramme est composé au-dessus et en dessous de lignes solides pendant que le centre est libre. Ceci fait référence au cœur libre de préjugés et capable d'accueillir la vérité. Les deux trigrammes ont en revanche le centre de la ligne solide. Cela fait référence à la force de la vérité intérieure dans ses effets.
C'est un portrait de Fellini, voilà.
Avanti, taglia la testa.
È uno degli apologhi del gran maestro Lao Tse.
Coraggio, taglia.
E così aprono le porte dell'inferno.
Ed ora si aprono le porte del paradiso.
On rencontre... d'abord quelqu'un qui, dans un premier temps, apparaît comme extrêmement angoissé. Lorsque Fellini termine un film, il y a une période de dépression où il a l'impression qu'il n'arrive plus à travailler. Ce sont des problèmes de conflit avec les producteurs, mais ce sont aussi des styles qu'il doit modifier. Et le genre de question qu'il pose, c'est « Quelle est ma situation ? Que m'arrive-t-il ? Je me sens abandonnée, vide, désert, inhabitée. Je n'arrive à retenir mon attention, mon sentiment, ma fantaisie sur rien. Je n'ai pas de projet de travail auquel je crois, ni le moindre programme pour mes journées. » Vous voyez, c'est ce sentiment de vide. Et l'oracle, par le biais du jet de pièces de monnaie ou de tiges de roseau, selon la technique, mais ça revient au même, lui répond dans ce cas-là. On est le 14 août 1981. Première réponse, c'est l'hexagramme 48. Un hexagramme, c'est une figure composée de traits. Ils sont des figures numérotées avec un nom. La figure 48 porte le nom de Le Puits. Et le commentaire qui est associé à cette figure, au fond du puits, il y a de l'eau limpide et fraîche, il s'agit de la faire remonter, de la boire et de la faire boire. Il fait à nouveau un autre tirage qui lui donne 46, l'ascension, et il en conclut sublime réussite. Vous voyez, c'est les moments de désespérance face au fait de ne pas arriver à se fixer sur un thème, une situation d'angoisse en fait, d'impossibilité à agir, qui l'interroge de cette façon.
Je suis prisonnier dans un château chinois habité par des prostituées très expertes habillées en geisha. Ces étahirs sont férocement sadiques et elles connaissent l'art le plus raffiné des jeux d'amour fantaisistes et cruels. Je les sens autour de moi, aussi puissantes et aussi peu fiables que des bêtes sauvages. Je sens la laine chaude de leur bouche de louve affamée. Elles me mordent les épaules, un bras, avec des lueurs fugaces de sourires tranchants, des éclairs dans leurs yeux troubles. Elles jouent ? Elles plaisantent ? Arrive Léopoldo Trieste très effrayé. « Enfuis-toi !» me dit-il. « Elles vont te manger tout cru !» Mais je continue à batailler avec les prostituées. Je suis convaincu que tout cela n'est qu'un jeu, même violent, dangereux. Mais à la fin, pour réussir à m'enfuir en compagnie de Léopoldo, je dois soutenir une véritable lutte, à coups de fouet, à coups de pied, de morsures. Je m'acharne violemment sur leur dos moelleux, sur leur large derrière, et je démolis les meubles, les lampadaires, tout. Je sors du château avec l'impression honteuse d'avoir exagéré. J'ai été lâche de traiter ainsi de pauvres petites putains. Peut-être n'était-ce qu'un jeu, elles voulaient seulement m'exciter pour que je leur fasse l'amour. Mais voici que le doute renaît. Si elles avaient vraiment voulu me tuer.
La plupart de ses rêves sont des rêves de culpabilité concernant les films qu'il va tourner. La nécessité de tourner ce film, le bien fondé de telle thématique, etc. Avec des gens qui l'engueulent, des producteurs qui ne veulent plus lui donner un rond, des amis qui contestent ses choix. Il y a toujours chez lui à la fois de la culpabilité, mais une telle ampleur dans ce qu'on pourrait appeler la réalisation du rêve, que ça étouffe la culpabilité. Le plaisir est quand même là, qui est une sorte de plaisir de rêver magnifiquement, quoi.
La vie nocturne est aussi importante, sinon plus, que la vie diurne, dans le processus de création de Fellini. Quand il tourne, la première des choses qu'il fait aux acteurs, aux techniciens, aux personnes qui arrivent sur le plateau, c'est « À quoi tu as rêvé ?» Fellini est très attentif à la fois à ses rêves, aux rêves des personnes qui travaillent avec lui. Et on le voit très bien ensuite, dans les années qui suivent, la période de relations thérapeutiques avec Bernard, que cette dimension-là de mettre le dessin et l'écriture d'images mentales au service du processus de création du film est primordial.
J'ai confiance dans le don que j'ai de me mettre au service de l'imagination que j'ai à matérialiser. Chaque film est différent d'un autre. Mais chaque moment est différent. Je n'ai pas créé de système. Je ne pourrais pas faire l'école. Ma méthode de travail est une manière d'être entièrement disponible. Je crois qu'un artiste est un médium, d'une certaine manière. Il est seulement un esprit, des nerfs, un corps, des mains. Un simulacre fait pour être habité par un rêve, un imaginaire, une idée, un sentiment qui deviennent par la suite des personnages, des situations et des histoires. Lui doit seulement réussir à la matérialiser avec son expérience d'artisan. Un médium artisan, en quelque sorte.
Lorsqu'on lui demande « qu'est-ce que c'est pour vous la création ?», il dit « pour moi, l'exemple le plus clair de création artistique, c'est Simenon, parce qu'il est un artiste médium ». C'est dans une longue lettre que Fellini écrit à Simenon. Il parle souvent de Jung. Fellini avait même raconté dans l'une de ses lettres à Simenon sa visite à la tour de Bollingen. C'était une tour sur le lac de Zurich qui Jung s'était fait construire, où il avait mis toute une série de symboles de sa recherche psychique. Donc Fellini était allé visiter cette tour avant la réalisation de son Casanova, qui notamment a été un film qui a donné vraiment beaucoup de problèmes à Fellini, parce qu'il disait qu'il détestait ce personnage. Il y avait comme un blocage, il ne voulait pas faire ce film, jusqu'au moment où il fait un rêve. Qu'est-ce qu'il rêve ? Il rêve d'une tour, il se rapproche de cette tour, il entend comme les cliquetis d'une machine à taper qui vient de cette tour, et à l'intérieur de cette tour, il voit un personnage de dos avec une sorte de bure de moine. Il se retourne, il a une barbiche, mais il dit « c'est Simenon ». Il dit « mais la barbiche est fausse, il est jeune ». Tout autour, il y a des enfants et il se rapproche, il regarde et il demande « qu'est-ce qu'il fait ?» Il dit « il est en train de peindre un roman sur Neptune. » Et à partir de ce moment-là, dit Fellini, je me suis réveillée et le blocage est passé, parce que j'ai pensé « si Simenon arrive même à peindre, donc dans un langage qui n'est pas le sien, comme il était dans la même situation, parce qu'il devait faire un film en anglais, c'était pas sa langue. Donc si Simenon arrive à peindre un roman sur Neptune, qui par définition chez Fellini est vraiment la dimension sacrée de la mer, si Simenon arrive à faire ça, j'arriverai à faire aussi ce film. »
La première scène du Casanova, la dernière scène du Casanova, c'est des rêves qu'il a fait.
Gérald Morin.
Mais pourquoi il attaque le Casanova à ce moment-là ? C'est comme une psychanalyse, il a parlé des angoisses du présent, il a parlé des malheurs qu'il a eus quand il était jeune, et puis ensuite il va parler aussi de la peur de l'avenir. Et Casanova, c'est la peur de jamais arriver à rejoindre ce qu'il cherche, puisqu'il cherche quelque chose qui n'existe pas, le fantasme de la femme. Et il va découvrir dans Casanova cette partie de lui-même qui est dans les mémoires de Casanova. Et Fellini le sait que lui-même fait cette recherche-là. Parce que sinon, toute sa vie, c'est cette recherche-là. Et il se trouve deux créateurs qui expliquent, quand ils se parlent entre eux, leur difficulté d'écrire une autobiographie qui ne soit pas l'autobiographie de la mémoire, mais l'autobiographie d'un souvenir universel.
Il y a un rêve où il rêve qu'il est au cinéma avec Giulietta, que le projecteur envoie sur l'écran un film qui représente rigoureusement ce qui est en train de se passer hors du cinéma. Hors de ce cinéma se déroule une tempête terrible avec une pluie diluvienne. La ville est inondée et il finit par ressortir du cinéma en se promenant avec Giulietta et deux amis dans la ville tombée en ruine. Il n'y a même plus d'eau. Ça y est, et un petit chien qui vient le voir et qui le remercie de l'avoir embauché pour un film. Où est-ce qu'il peut être ce rêve ? Tiens, voilà, Giulietta en piteux état.
Giulietta est malade. Elle a une tumeur. Quelques mois à vivre. Quelle douleur, quel effort de transcrire ce rêve. C'est ce que je notais en 65. Les éternelles angoisses, les éternels remords. Et tout à coup, on trinque au champagne. Tumeur et champagne. Mort et toast de vœux. Comme on célèbre non pas une mort, mais une naissance. Note. Peut-être que le sens du rêve est justement le suivant. Mort de la phase Giulietta remords et naissance d'une nouvelle phase. Ah, comme je serais heureux.
Giulietta! Viens avec nous! La seconde!
Giulietta Masina revient souvent dans ses rêves. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres femmes qui apparaissent dans les rêves de Fellini et dans ses films. Alors, ce qui est vraiment curieux, c'est que vraiment, Giulietta Masina a vraiment le type à l'opposé de la femme fellinienne, c'est-à-dire qui est une femme plantureuse, une femme avec des hanches très grandes, des gros tétons, etc. Et tandis que Giulietta Masina est un peu une femme asexuée, hein, la femme clown de la strada. Donc c'est une sorte de femme enfant. C'est ainsi qu'il la représente dans les dessins de ses rêves, à côté des femmes avec une sexualité explicite.
C'est une autre idée mia. Appena fatto l'amore con il mio fidanzato, scivoliamo giù. È bellissimo. Vieni, Giulietta, spogliati. No, grazie. Una volta il mamma è venuto giù con la testa e ci stava rimanendo. Vieni, Giulietta.
Alors là, il y a tout un discours assez compliqué sur Fellini parce que après sa mort, on a découvert, par exemple, qu'il avait une sorte de femme parallèle qui est restée avec lui presque 40 ans. Donc c'était vraiment une sorte de bigamie qui correspondait beaucoup plus à ce modèle de femme dont la sexualité est très évidente, Anna Giovannini, qui était une pharmacienne de Rome. Et en plus, il y avait Sandra Milo, donc il y avait plusieurs femmes.
P, nue et rosée comme une gigantesque nouveau-née, était assise sur un nuage immobile au milieu du ciel très lumineux et très bleu. Je sentais que le moment était venu d'intervenir et je me mettais à souffler sur le nuage en disant « Il est temps de fertiliser ce qu'il y a là-dessous ». Sous la poussée du souffle aussi puissant que celui d'un dieu, le nuage de paix se mettait à planer, calme et lent à travers l'espace. D'un geste solennel, P prenait entre ses mains ses fabuleux tétons et une pluie régulière et luisante tombait sur la terre. Bah !
Ce sont des émotions et ce sont des émotions qui résolvent un problème du présent. On se donne une réponse une part de soi détient la réponse du problème que l'on se pose, pourvu qu'on change de point de vue. Mais cette réponse, elle est sur le mode, effectivement, d'une réponse émotionnelle qui doit être ensuite verbalisée. Et tout le travail que Fellini fait, c'est précisément d'affirmer l'importance d'une pensée visuelle, d'une pensée qui est en deçà ou au-delà du langage.
P est devenu un moyen de transport énorme, très moelleux. Étendu sur son vaste ventre blanc, glorieusement agrippé à ses énormes tétons qui se dressent devant moi comme des collines rondes, son gros corps douillet, plus large que la route sur laquelle elle est allongée et complètement nue, glisse doucement comme un vaisseau blanc. Ses hanches touchent les façades des maisons. Ah, quelle joie, quelle fête, dis-je à haute voix. Les hanches de ma fabuleuse grosse truie se sont encore élargies. Quelle merveille! Comme je suis bien là-haut!
Il y a quand même un mystère par rapport au rêve. C'est des images qui sont certainement nées au moment de la prime enfance, donc qui ressortent.
Un film, plus que tous les autres, incarne la plongée onirique de Fellini. C'est 8 et demi, où le réalisateur met en scène les doutes d'un créateur impuissant face à son œuvre. Le film ressemble à un rêve, solide d'un côté, confus de l'autre. Il commence par un flottement au-dessus des voitures de Rome et se finit par une promenade en fanfare sur le bord de mer. Porté par la musique de Nino Rota, tous les personnages de l'univers fellinien se suivent en file indienne. Les clowns devant, suivi des enfants, des prêtres, des femmes réelles et fantasmées, des mages, des monstres. C'est l'image éternelle du cinéma fellinien, et à la fin, sur cette plage qui s'est transformée en piste de cirque, reste seul en tenue d'écolier, le double enfant de Federico.
D'où viennent cette obsession du corps de la femme? Il raconte dans 8 et demi que c'est parce qu'il a découvert la Saragina sur la plage, qui faisait contraste avec l'éducation stricte des Salésiens, et lui, sur la plage, découvre le corps de cette femme qui vivait dans un bunker et qui dansait. Il a quel âge à ce moment-là? 7-8 ans.
Saragina est apparue comme ça, comme j'ai raconté dans 8 et demi. La première apparition bouleversante du sexe à l'état pur. Une espèce de tempétueuse figure féminine, avec ses cheveux noirs, pleins de sable. Elle avait aussi, comme elle dormait dans un bunker sur la plage, et que le vent amenait du sable et aussi des petites boules d'épines ou des étoiles de mer séchées qui s'emmêlaient dans ses cheveux. On aurait dit une divinité marine ou sous-marine. Cette femme gigantesque, qui je crois s'accoupler avec les marins, portait le nom de Saragina. Parce que contre ses prestations généreuses et débordantes, j'imagine, elle était parfois remerciée avec des seaux de poisson très bon marché, qui s'appelait Saragina. C'était un poisson qui n'était même pas vendu au marché. Saragina s'appelait ainsi parce que les marins lui en offraient. Je suis un peu gêné de le dire, mais puisque vous me posez la question, comme dans le film, cette dame a dansé pour nous, petits garçons, contre quelques boutons d'or que nous avions arrachés à nos uniformes de marins,
andava in voga un abitino con cui quasi tutti i bambini erano vestiti.
Nous nous sommes réunis entre 4 ou 5. Avons recueilli une vingtaine de boutons dorés, nous les avons donnés à la Saraghina. Nous étions petits, nous avions 7 ou 8 ans et ne pouvions pas prétendre à une autre prestation que celle qu'elle a faite, qui a consisté à une danse désordonnée avec ses grosses fesses et ses seins rebondissants, qui nous a laissé comme une trace traumatisante.
Vergognati, vergognati, vergognati.
È un peccato mortale, è un peccato mortale.
Non ci credo, non è possibile, non ci credo, non è possibile.
8 et demi est le film d'ailleurs qui est certainement plus qu'Amarcord sur lequel il revient sur sa petite enfance, puisque il y a les devins qui sont présentés dans le film et qui découvrent Asa Nisi Maza. En javanais, ça veut dire anima. Asa Nisi Maza. Et donc anima, c'est-à-dire la rêverie, c'est-à-dire retourner à l'enfance. Et chaque fois, 8 et demi qui raconte l'histoire d'un réalisateur qui ne peut plus créer, à chaque fois reviennent l'assaillir ses souvenirs d'enfance.
Et essere tesoro, courage guido, che deve entrare ritmo e te. Ti ricordi la parola? Asa nisi masa, asa nisi masa, asa nisi masa.
Asa nisi masa?
È così? Sì.
Quando nella sequenza dei due,
dans la séquence des deux télépathes, ceux qui devinent ce que les clients de l'hôtel pensent ou ont dans leur sac pour les divertir, le magicien, Maurice, s'approche de Marcello et lui dit « Pense à quelque chose toi aussi,
Gianfranco Angelucci. »
Et Marcello pense « Asanissi Massa ». La femme du magicien ne comprend pas ce qu'on lui transmet et prend un feutre pour l'écrire au tableau. Et elle écrit Asa Nisi Masa, anima. C'est la première fois que le mot âme entre dans le cinéma. Et donc Guido Marcello demande au télépathe Maurice, mais vous avez des trucs avec ta femme pour deviner la pensée des gens? Et l'autre lui répond, oui, bien sûr qu'il y a des trucs, mais quelque chose se passe vraiment. Cette phrase représente exactement tout le cinéma de Fellini. Quelque chose se passe pour de vrai. Je suis un magicien.
Huit et demi, c'est un homme qui est en crise, qui a affirmé un contrat pour faire un film, il y a le set déjà, et il ne sait plus quel film il voulait faire. Alors, c'est cet homme en crise. Vous savez que le titre original, qui c'était de Flaiano, La Bella Confusion, la Belle Confusion, ça rend beaucoup l'idée. C'est comme un homme qui se raconte en psychanalyse, parce qu'il n'y a pas un scénario classique. Il me disait, tu sais comment on va faire un film? On pense à 6 ballons, 4, 5, 6 ballons. Il appelait ballons les chapitres, disons, non? Ils ne sont pas toujours liés l'un à l'autre. Il y a en général une idée, mais ils passent d'une chose à l'autre et c'est comme une personne qui est dans une séance de psychanalyse. Il passe rapidement par association d'une chose à l'autre. Mais la liberté vraie venait de Bernard qui lui disait « Pensez à vos rêves ». Donc, le film, c'est un rêve. Parce que comme dans les rêves, il y a une association entre les choses, mais ce n'est pas très clair. C'est clair après qu'on l'a vu, on comprend, non?
Je croyais pourtant avoir les idées claires. Je voulais faire un film honnête, sans mensonge, sans tricherie. Il me semblait avoir quelque chose de très simple. Si simple à dire. Un film qui aurait pu être utile à tous, un film qui aurait aidé à enterrer définitivement ce que chacun porte de pourri en soi. Et au lieu de ça, je suis le premier à ne pas avoir le courage d'enterrer quoi que ce soit. Je me retrouve avec une tête pleine de confusion et cette tour sur les bras. Qui sait pourquoi les choses ont tourné ainsi? À quel moment je me suis trompé de route?
Au fond, je ne fais pas, moi, une très grande différence entre le livre de mes rêves et ces films proprement oniriques. Quand je dis proprement onirique, c'est évidemment 8,5, mais c'est évidemment... Et c'est tous les films nostalgiques sur son enfance, à Marcord, etc. Ou même les films totalement fantasmatiques, comme La Cité des Femmes. Disons que... S'il recopiait ses rêves tous les matins, s'il les dessinait tous les matins et s'il les racontait par écrit tous les matins, c'était peut-être aussi une façon de faire du cinéma avec peu de moyens.
Je suis invité par Bernard à rester dormir chez lui dans son lit. Quelle fête, quelle joie. Sur le grand lit, nous rions et nous plaisantons comme des enfants. Madame Bernhardt fait un instant son apparition et se retire aussitôt très gentiment. Cela ne lui fait rien que j'ai occupé son lit, au contraire, elle est contente. À l'étage au-dessus, un rite obscur se déroule, une mystérieuse cérémonie qui attire très fortement Bernhardt. Mais tout le monde dit qu'il ne doit pas y aller, que cela peut être très dangereux pour lui, au point de lui être fatal. Mais Bernhardt insiste, il veut monter voir et... Il me dit de lui procurer des pilules, pilules ou piles, qui, avalées tout de suite après la cérémonie occulte, le préserveraient de tout malheur. À l'étage en dessous, le frère de Bernhardt habite avec sa femme. Il rabote 2 ou 3 crucifix.
Après, lorsque Bernhardt meurt, là on voit... que à travers ses rêves, que Fellini est en deuil de Bernhardt pendant un an. Il en rêve pendant un an. Et là, il retrouve la tradition de la coutume, parce que rêver de Bernhardt mort, c'est le conduire dans l'au-delà jusque au moment où il est passé du côté du monde des morts, si vous voulez. Et vous avez des planches de dessin qui le montrent, des planches de rêve, où Fellini accompagne le maître dans l'au-delà. Et c'est l'épouse de Bernhardt qui lui donne, et ça c'est très beau, lui donne le livre de l'exemplaire qui appartenait à son mari, à Bernhardt, de l'oracle de Yikin. Donc c'est un geste de transmission. En prenant ce livre, il s'inscrit dans cette lignée. Le livre, c'est Bernhardt. On le voit bien sur les planches que Fellini continue à dessiner de ses rêves. C'est que, n'ayant plus l'interlocuteur vivant, c'est le livre qui le remplace et il interroge les oracles, comme il a appris à le faire avec Bernhardt.
Il rêve qu'il est dans un orchestre, dans un opéra, qu'il a devant lui l'orchestre philharmonique largement déployé, tout le monde est là, et le chef d'orchestre le repère sur son fauteuil, lui dit « Monsieur Fellini, ce serait vraiment un immense honneur de votre part, ce serait vraiment du... pour nous un honneur immense de vous entendre chanter dans notre cadre. » Et vous vous souvenez de la voix de Fellini, c'était presque une voix d'enfant, à peine une voix d'adolescent, un filet de voix comme ça, un peu aiguë. Et dans ce rêve, il se dit qu'il a une voix de stentor. Il se ressent comme ayant une voix de stentor et par conséquent, il ne peut pas chanter parce que sa voix est si puissante que s'il chantait, l'opéra s'effondrerait sur les musiciens et les tuerait tous. Donc il refuse de chanter poliment, retourne à sa place et là... éprouve un sentiment de puissance divine. Il est devenu Dieu parce que, en refusant de chanter, il a épargné toutes ses vies. Tous ces gens sont restés vivants grâce à lui. Ça, c'est le rêve.
Siccome mi sembra che realizzare dei film,
comme faire des films est la manière
modo più
la plus naturelle, naturelle de réaliser moi-même, une expérience ne peut être qu'heureuse. En dehors du plaisir de la création, d'inventer, de créer un monde, d'inventer des personnages et des situations, de résoudre tant de problèmes techniques, artisanaux ou d'expression, vient ensuite une satisfaction plus profonde, plus secrète, plus effrontée, qui a quelque chose à voir avec le mythe de Narcisse, qui est un peu l'idée de puissance semi-divine. Au fond, un créateur a toujours quelque chose à voir avec le Père Créateur.
Flowers have no scent, and the child's been miscarried.
C'était Federico Fellini, l'illusionniste. Épisode 3, Fellini des esprits. Avec la réalisatrice Anselma Dell'Olio, le romancier Daniel Pennac, l'anthropologue Giordana Charuti, le critique de cinéma Jean-Max Méjean, le scénariste Gianfranco Angelucci, les professeurs de littérature Sophie Germès et Marina Géat, et l'ancien assistant réalisateur de Federico Fellini, Gérald Morin. Dans le rôle de Federico Fellini, Frédéric Pierrot. Doublage, François Briot, Marceau Vassy. Prise de son, Romain Luquins, Pierre Henry et Mélodie Eisman. Mixage, Claire Levasseur. Documentation, Antoine Villoz et Anne-Lise Signoret. Ina, Emmanuel Luccioni. Avec les extraits d'Affondo Federico Fellini, RTVE 1977, de Fellini d'André Delvaux et Dominique Delouche, et de Je suis un grand menteur de Damien Petitgrou. Et les extraits des films 8 et demi, Juliette des esprits et Casanova. Collaboration Luca Bolan. Coordination Christine Bernard. Federico Fellini, l'illusionniste, une grande traversée de Matteo Caranta, réalisée par Somanina. And if every angel's terrible, why do you hide inside her? Like a child in a skirt, the supermarket's loud and bright, and bow it down, does she feel warm tonight? Bow it down, does she feel warm tonight? Bow it down, does she feel warm tonight? Why do you
the burden. If I were behind the skin, she sounded like an angel when she cried.